une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de l'apérophonie, nous allons parler d'économie. Pour cela, nous sommes en présence d'Emmanuel Puissant. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les politiques économiques du gouvernement font débat depuis quelques semaines suite aux déclarations du Premier ministre Gabriel Attal du 27 mars 2024 lors du journal de 20h de TF1 dans lequel il a annoncé qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage serait proposée pour l'année 2024.
D'abord, je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Mais pourquoi ? D'abord, parce que je le disais il y a un instant, notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qui est davantage de Français qui travaillent. Et je le dis ici, mon objectif, ce n'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. C'est ça le seul objectif qui est le nôtre.
Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité des objectifs clairs du gouvernement. Il faut réduire les dépenses publiques. Cela apparaît comme une évidence pour Bruno Le Maire également. C'est déjà ce qu'il annonçait en février dernier avec un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Puis, c'est ce qu'il a prononcé également le 6 mars à l'Assemblée nationale. Je cite « La France est accro à la dépense publique et la France a le niveau de dette publique le plus élevé de la zone euro après la Grèce et l'Italie ». Donc, dans ce contexte économique, nous allons tenter de comprendre quels budgets précisément vont être diminués pour faire ces économies. Comment fonctionne la dette publique ? A-t-on vraiment besoin de la rembourser ? Quel impact va avoir cette nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Nous allons tenter de comprendre dans quel système s'inscrit cette politique qui a toujours comme objectif économique principal l'augmentation de la croissance. Ainsi, nous questionnerons également la place de certains grands indicateurs, leurs utilisations dans le discours politique ainsi que leurs limites. Quelle vision ils véhiculent de la richesse, du travail et encore du chômage ? Finalement, pourrions-nous faire autrement ? Nous allons tenter de remettre en question également cette illusion de neutralité dans le discours économique afin de prendre conscience des constructions sociales et des choix politiques qu'il y a derrière chaque discours. Comment pouvons-nous repenser l'économie, proposer une autre alternative et d'autres réflexions qui seraient plus aptes à répondre aux enjeux actuels, sociaux et environnementaux ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Puissant. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas.
Oui, donc je suis Emmanuel Puissant, je suis enseignante-chercheuse en économie à la faculté d'économie de Grenoble et au laboratoire, le centre de recherche en économie de Grenoble, le CREG. Et je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Association française d'économie politique qui vise à essayer de mettre en visibilité les différents courants économiques partant du principe que aujourd'hui, médiatiquement, scientifiquement et politiquement, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière de faire de l'économie, qui est l'économie plutôt orthodoxe et reposant sur des hypothèses libérales et néolibérales. Et voilà, donc l'idée de cette association, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est fondamental, c'est d'essayer d'œuvrer pour la défense du pluralisme en économie, notamment dans nos universités et nos centres de recherche.
Exactement. Donc déjà, je voulais introduire le sujet avec une citation de David Kella qui nous dit, je cite, « La plupart des économistes prétendent étudier une économie pure, détachée des autres sciences sociales. Ils considèrent en particulier qu'il est possible de comprendre le système économique d'un pays sans en connaître l'histoire, le système juridique, la géographie, la sociologie ou les valeurs anthropologiques. À partir de cette fiction, les économistes construisent des modèles censés permettre la compréhension du réel. Or, ces modèles, en ne considérant qu'une partie du monde socio-économique, sont en fait incapables de comprendre les phénomènes qu'ils prétendent étudier. » En réaction à cette citation, Emmanuel Puissant, pourriez-vous nous expliquer quelle logique utilise ce courant de pensée de l'économie standard mainstream, qui donc est largement critiqué dans cette citation, et quelles en sont les limites, selon vous ?
Oui, alors c'est important de préciser que l'économie, dès le départ, dès les grands classiques, a toujours été politique. En fait, c'est de manière assez récente que l'économie dite orthodoxe, standard ou mainstream, on a des sortes de synonymes ici, s'est engagée dans une forme d'hégémonie et de domination visant à non seulement invisibiliser la partie, les très nombreux courants d'économie politique. Juste pour qu'on sache de quoi on parle, les courants d'économie politique, ça peut être des courants marxistes, des courants keynésiens. On a des courants de la régulation, des conventions. Enfin, on a tout un tas de courants économiques en économie politique. Et donc, voilà, quand même dire que c'est relativement récent, cette forme d'hégémonie de l'économie standard, puisqu'il ne faudrait surtout pas qu'on ait en tête que l'économie a d'abord été pure, standard, mathématisée, formalisée. Et puis, récemment, on se serait dit qu'il fallait qu'elle soit un petit peu politique. Alors effectivement, l'économie standard, dans la citation de David Kaila, c'est assez clair. L'économie standard, elle est désencastrée de la société. Et là, je prends un terme de Karl Polanyi qui explique effectivement un des problèmes de l'économie standard, qui est que l'économie standard repose sur l'hypothèse selon laquelle il faut partir de l'individu pour comprendre la société. Donc en fait, on va extraire l'individu qu'on appelle homo economicus de la société, on va le désencastrer pour essayer de modéliser justement sa rationalité individuelle et ses comportements individuels. Donc vous avez parlé en introduction de l'assurance chômage, je sais qu'on y reviendra, mais donc l'idée étant de modéliser le comportement individuel d'une personne privée d'emploi en disant qu'il va être rationnel pour cette personne-là de travailler le moins possible pour avoir le plus de revenus possible. Donc avec le sous-entendu que si on a trop d'allocations chômage, on va être désincité au travail. Et ce qui est très important, c'est que dans cette théorie-là, la société est considérée comme une agrégation, une addition de rationalité individuelle. Et donc, c'est ça la force du désencastrement, c'est que du coup, nos règles, nos conventions sociales, nos représentations sociales, notre histoire politique, notre histoire sociale, le degré des inégalités, la répartition du capital, tout ça, ce sont des éléments exogènes du contexte qu'on va neutraliser, qu'on va enlever pour pouvoir modéliser justement cette rationalité individuelle. Et donc finalement, on va considérer la société sans tout ce qui fait société. Voilà. Et donc, c'est un des énormes problèmes qu'on essaye de mettre en visibilité aussi au niveau de l'Association française d'économie politique, avec un manuel qu'on vient de sortir, on y reviendra aussi, je pense. L'idée étant de montrer, en fait, que intrinsèquement, l'économie standard ne peut pas nous permettre de comprendre la complexité du réel. L'économie standard ne peut pas nous permettre de comprendre tous les enjeux en termes de défis sociaux, écologiques, humains, puisque dans sa méthodologie, on passe par une phase de désencastrement et de sortie de l'individu de la société.
Tout à fait. Et du coup, vous défendez cette vision de l'économie qui est largement minoritaire dans l'espace médiatique et politique. Et ce manque de pluralisme, quel impact il a sur la représentation qu'on a de l'économie et de la représentation aussi qu'on se fait des choix politiques qui sont pris ?
Énormément d'impact. En fait, cette réduction du pluralisme en économie, pour nous à la FEP, et c'est vraiment ce qu'on essaye de défendre, c'est qu'en fait, c'est bien sûr un problème scientifique, un problème pédagogique, mais c'est avant tout un problème démocratique. Je vais vous prendre un exemple, on aurait pu en prendre plusieurs. Je vais rester sur l'exemple du travail, du chômage et de la précarité. L'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule manière sérieuse de faire de l'économie, à savoir l'économie standard, mène à l'idée selon laquelle, si on est un économiste sérieux, on est en capacité de conseiller nos politiques publiques, nos gouvernants et nos gouvernantes, et donc on s'oriente un petit peu naturellement vers les économistes standards pour être conseillés. Or, en économie standard, le facteur principal du chômage, c'est le, je cite et je mets des guillemets, coût du travail. Aujourd'hui, le fait que cette théorie économique soit ultra majoritaire dans la sphère médiatique notamment, fait que tout le monde a déjà employé une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois l'expression coût du travail, l'expression charge sociale, qui sont des expressions qui repose sur des hypothèses, sur des représentations sociales. Je sais que les économistes standards n'aiment pas ce terme-là, mais je vais jusqu'à le prononcer, sur des idéologies, sur des représentations de la société qui aujourd'hui ne font plus débat. C'est-à-dire que moi, j'ai des amphis de première année, ils sont à peu près 500 première année en économie. Je sais, ça fait partie des premières séances d'amphi, où je sais bien que la majorité, l'écrasante majorité, voire la quasi-totalité des étudiants et étudiantes, emploient régulièrement le terme de charge sociale. Or, une charge sociale n'existe pas en soi, ce sont des cotisations sociales patronales, qui sont là pour financer la sécurité sociale, qui repose sur des représentations sociales de répartition des richesses, du capital, de contribution collective au système d'assurance collectif obligatoire de protection sociale, qui est une construction historique, d'où l'importance de l'histoire, pour reprendre ce que disait David Kaila dans la citation que vous avez utilisée tout à l'heure. Et donc, effectivement, on met sous silence tous ces enjeux-là, pardon, de création de richesses, de répartition des richesses, de contribution collective à un système collectif de protection sociale, et on reste sur l'idée que le travail coûte cher et que le chômage s'expliquerait par une désincitation à l'embauche des employeurs, puisque ce serait trop cher et les charges pèsent trop lourd. L'idée de charge parle d'elle-même. Et donc, à partir du moment où on a façonné les esprits, je ne vais pas dire, vu le contexte actuel, coloniser les esprits, donc je resterai sur une sorte de façonner les esprits, mais quand même, ça laisse entendre que finalement, sans que ça passe par la case de délibération démocratique et collective, on est dans une idée qui n'est pas discutée, mais qui aujourd'hui occupe le statut de consensus, ce qui est extrêmement préoccupant pour notre société et pour notre démocratie, que, ok, pas besoin de réfléchir beaucoup. On sait qu'une des urgences pour réduire le chômage, c'est de baisser le coût du travail et les charges sociales, entre guillemets. Et du coup, ça fait que derrière, on y reviendra, je pense, c'est la sécurité sociale qu'on décide de casser et de déconstruire.
Oui, tout à fait. Et en plus, toutes ces idées-là, on donne l'illusion d'être neutre et ça pose problème. Donc, on va essayer de comprendre maintenant cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qu'a annoncé Gabriel Attal. Pour comprendre déjà, pour les personnes qui ne sont pas spécialistes en économie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est comptabilisé ce taux de chômage ? Qu'est-ce qu'il mesure précisément ?
Alors effectivement, vous l'avez dit aussi à l'introduction, c'est très important, puisque aujourd'hui, le taux de chômage est devenu, comme le PIB, une sorte de boussole des politiques publiques. Et le taux de chômage aujourd'hui, et là je m'appuie sur des travaux de collègues comme Florent Janicatrice ou Anne Leroy, et les indicateurs, aujourd'hui, sont devenus des objectifs de politique publique. C'est pour ça que c'est très important de répondre à la question que vous venez de me poser, à savoir comment est-ce qu'on comptabilise. Le taux de chômage, aujourd'hui, il y a deux manières de le comptabiliser. Le taux de chômage, selon le Bureau international du travail et l'INSEE, repose sur trois critères. Le premier critère, c'est le fait d'être considéré. Et vous voyez là tout l'enjeu de la subjectivité de cet indicateur, qui effectivement s'oppose à l'idée d'objectivité, de neutralité effectivement dont vous avez fait état et qui est très véhiculée autour des indicateurs, sur le fait d'être considéré comme étant à la recherche active d'un emploi. On pourra revenir sur les critères de recherche active d'un emploi. Le deuxième indicateur, c'est le fait de ne pas du tout avoir travaillé, avoir eu des heures d'emploi rémunérées au cours du mois précédant l'enquête. Donc, quelqu'un ou quelqu'une qui rechercherait un emploi activement, mais qui, en attendant, a besoin de manger et donc accepterait de faire quelques heures de ménage, sortirait des statistiques du chômage. Et troisième critère, la disponibilité pour occuper un nouvel emploi. L'idée étant que si vraiment on veut aller à l'emploi, on doit être disponible tout de suite. Or, je prends souvent l'exemple d'une femme demandeuse d'emploi à la tête d'une famille monoparentale, il faut bien plus que 15 jours pour pouvoir gérer la garde des enfants, pour pouvoir accéder à un nouvel emploi, alors qu'on peut complètement rechercher activement. Côté, Pôle emploi, j'ai du mal à m'y faire, France Travail maintenant, et l'ADARES, qui est donc un indicateur franco-français, on est sur une multitude, on est sur 5 grandes catégories du taux de chômage, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait on n'en retient qu'une seule, alors que si médiatiquement on traitait des 5, on aurait une connaissance très fine du chômage qui serait très intéressante et qui permettrait de remettre sur le devant de la scène la question des choix politiques et des choix de société. Donc la catégorie A du taux de chômage selon France Travail et la DARES, ce sont l'ensemble des personnes qui n'ont pas du tout travaillé de manière rémunérée, qui n'ont pas du tout eu d'heure d'emploi et qui sont considérées comme à la recherche active d'un emploi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'en fait, la seule chose qui importe le gouvernement, mais comme les gouvernements précédents, les politiques publiques, ce n'est pas la baisse du chômage, c'est la baisse du taux de chômage. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, on fait comme si il suffisait de baisser le taux de chômage pour baisser le chômage. Et la réforme de l'assurance chômage s'inscrit dans cet objectif-là. Et donc, pour être à peine caricatural, malheureusement, par rapport à la situation socio-économique actuelle, il suffirait de permettre à tout le monde d'avoir 5 ou 10 heures d'emploi par semaine. Ça ne réglerait en aucun cas la question du nombre de personnes insuffisantes qui sont capables de vivre dignement de leur salaire. Ça ferait baisser drastiquement le taux de chômage.
Oui, donc vous pouvez préciser peut-être la différence entre les deux. Peut-être le chômage, c'est de pouvoir vivre de son salaire, vous entendez ?
Eh bien, en fait, c'est la différence entre le chômage et le taux de chômage. Le taux de chômage est une proposition de statisticiens et d'économistes. Je ne féminise pas volontairement puisqu'il y a une sous-représentation de femmes chez les statisticiens et statisticiennes. Donc, c'est une proposition pour éclairer une réalité. Et on fait comme si, effectivement, les indicateurs étaient neutres objectifs. Donc, c'est tourner le dos à toute la sociologie de la quantification, notamment les travaux absolument lumineux d'Alain Desrosières, qui montrent, effectivement, que quand on éclaire une partie de la réalité, là, en l'occurrence, chômage, on met forcément dans l'ombre une autre partie qui existe. La définition du chômage, je serais bien en peine d'y répondre parce qu'en fait, c'est une question de société. C'est-à-dire que pour pouvoir s'attaquer à un problème social aussi important dans la vie quotidienne des personnes que le chômage, on devrait, dans une démocratie, s'arrêter sur la phase de la définition, justement. Qu'est-ce qu'on estime comme posant problème dans notre société ? Finalement, les politiques publiques qui se concentrent sur le taux de chômage ont répondu à cette question. On n'est juste pas passé par la case de délibération démocratique. Ils ont répondu à cette question. Pour eux, si on estime que la baisse du taux de chômage est devenue la priorité de politique publique, ça veut dire que ce qui fait problème dans la société, ce sont les individus qui n'ont pas du tout d'heures d'emploi et ou qui ne recherchent pas activement un emploi. À titre individuel, si on me posait la question, personne ne me la pose, hein, je vous rassure, mais si on me posait la question en tant qu'économiste politique, effectivement, un des critères de définition du chômage devrait être, selon moi, l'ensemble des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre de leur salaire.
Ok. Et donc, vous avez parlé de la subjectivité de ces critères de recherche active d'emploi et aussi de la restrictivité des critères. Et du coup, ces critères-là, est-ce que les personnes du coup, qui ne sont pas considérées en recherche active d'emploi, ce sont les personnes qu'on va catégoriser de chômeurs volontaires ou encore, comme vous l'avez dit, de coûts du chômage ?
Oui, alors du coup, commencez par dire peut-être que les personnes qui sortent de la catégorie en recherche active d'emploi, à partir du moment, et ça c'est important de l'avoir en tête, à partir du moment où l'objectif des politiques publiques, c'est la baisse du taux de chômage, les personnes qui n'entrent pas dans le taux de chômage, donc notamment celles qui sont considérées comme qui ne sont pas considérées comme en recherche active d'emploi, ne sont plus un problème de politique publique de l'emploi. C'est-à-dire qu'on les sort des publics cibles, des destinataires des politiques publiques de l'emploi, notamment, par exemple, des destinataires, des dispositifs d'aide de retour à l'emploi ou d'accompagnement vers l'emploi. Ça, c'est déjà très important de l'avoir en tête. Alors, effectivement, les personnes qui ne sont pas considérées comme en recherche active d'emploi rentrent complètement dans la catégorie du chômage volontaire, hein, qui s'appuie sur des hypothèses néoclassiques fondamentales et constitutives de la théorie standard. Et donc, on estime qu'elles ne sont pas légitimes pour être destinataire d'aide ou de dépenses publiques, d'aide sociale, de prestations sociales. Et donc là, on instaure une sorte de condition à recevoir des prestations sociales qui, historiquement, sont un droit. D'accord ? Il y a une histoire de la cotisation sociale qui permet d'avoir des droits à l'issue de cette contribution-là. Et donc, on instaure effectivement un débat qui est très important dans la sphère politique et médiatique d'une partie des chômeurs qui seraient des bons chômeurs, qui rechercheraient activement un emploi, qui seraient méritants. Je vous laisse apprécier le terme lexico, qui seraient méritants et du coup qui seraient légitimes pour recevoir des prestations sociales. Et de l'autre côté, des mauvais chômeurs qui ne joueraient pas le jeu et donc qui ne seraient pas en recherche active d'un emploi. Et là, effectivement, et c'est l'économie politique, c'est ça aussi, c'est de toujours pouvoir recevoir les apports de la sociologie, notamment de la sociologie du travail et du chômage. Et on sait que parmi les personnes qui ne sont plus considérées aujourd'hui comme étant en recherche active d'un emploi, on a beaucoup de personnes privées d'emploi découragées, qui recherchent un emploi depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, qui ont intériorisé l'idée qu'il n'y a plus de place pour eux dans ce marché de l'emploi et donc qui ne sont plus en recherche active d'un emploi et donc qui passeraient dans la catégorie des mauvais chômeurs puisque ne joueraient pas le jeu des règles de l'assurance chômage.
Donc finalement, on peut observer que la diminution du taux de chômage, elle ne met pas en lumière la diminution du taux de précarité ou encore de la pauvreté laborieuse. Et donc cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a pour but de réduire le taux de chômage en incitant le retour à l'emploi avec des critères qui sont de plus en plus restrictifs sur la durée de l'indemnisation, sur le niveau de l'indemnisation et aussi sur le durcissement des conditions d'affiliation. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur les personnes qui sont en recherche d'emploi ? Est-ce que ça va les inciter à retourner à l'emploi ?
Alors, d'abord, sur la première partie de votre question, et après je réponds directement à la dernière partie, la première partie de votre question sur, finalement, la baisse du taux de chômage ne dit rien sur la précarité. Quand même, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nos outils statistiques ne sont jamais parfaits. Ils doivent toujours être enrichis et complexifiés pour pouvoir coller de mieux en mieux à la complexité et aux évolutions extrêmement rapides de la situation socio-économique, ça c'est clair, mais quand même, on a des outils statistiques qui sont très importants et qui sont très pertinents. Ils sont juste sous-utilisés médiatiquement et politiquement. Je parlais tout à l'heure du taux de chômage côté France Travail et d'ARES. Ce taux de chômage-là repose sur une pluralité de catégories. Aujourd'hui, on met le projecteur sur la catégorie A, à savoir l'ensemble des personnes qui n'ont pas du tout d'emploi et qui sont considérés comme étant en recherche active d'un emploi. Nous avons de quoi vérifier les périodes au cours desquelles le taux de chômage de la catégorie A diminue. On a de quoi regarder si cette diminution se fait grâce à l'accès à de vrais emplois, temps plein ou se rapprochant de temps plein, ou sur la base de développement de la précarité. C'est-à-dire que les catégories B et C du taux de chômage nous permettent d'avoir ça. Et on voit effectivement ces dernières années que à chaque fois que la catégorie A du taux de chômage diminue, on voit que c'est le taux de précarité qui augmente avec les catégories B et C. Donc on sait que l'outil privilégié de retour à l'emploi des personnes privées d'emploi aujourd'hui est effectivement le développement d'emplois dits précaires, courts, temps partiel, etc. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que toute politique publique, tout indicateur, toute utilisation d'indicateurs repose sur des représentations sociales qui ne sont pas explicitées, ce qui est un énorme problème démocratique. Aujourd'hui, on a une représentation sociale qui est radicalement différente de la conception de la représentation sociale qu'on avait au cours des dites 30 glorieuses, où on avait une norme d'emploi autour d'un compromis un peu de l'organisation fordiste du travail, à savoir qu'au départ, un emploi dans les 30 glorieuses, un emploi, c'était un emploi qui permettait de vivre dignement avec un salaire digne et un temps de travail temps plein. Aujourd'hui, ce n'est pas explicité, mais derrière toutes ces mesures et ces objectifs de politique publique, on a transformé la définition de l'emploi. Un emploi, c'est toute heure d'emploi. Ce sont des miettes d'emploi. Ça marche, c'est de l'emploi, puisque ça permet de baisser le taux de chômage. Donc finalement, la réforme de l'assurance chômage, et je ne veux surtout pas minimiser la violence de cette réforme, mais on est dans la droite ligne des réformes de l'assurance chômage qu'on a eues ces dernières années. On est effectivement dans une tendance de fond à vouloir effectivement durcir les conditions d'indemnisation des personnes privées d'emploi. En changeant les critères, en les rendant de plus en plus restrictifs, en réduisant le montant des allocations, puisqu'on a toujours l'idée, rappelez-vous ce que je disais en début, homo economicus, le chômeur aura toujours intérêt à se fatiguer le moins possible pour avoir un niveau de revenu le plus élevé possible. Il y a toujours cette idée dans l'économie néoclassique que l'indemnité chômage est une rigidité du marché du travail et quelque chose qui empêche l'offre et la demande de travail de se rencontrer et quelque chose qui empêche de baisser les salaires, ce qui nous permettrait de réduire le chômage. Et donc, effectivement, on a toujours une tension sur le montant des indemnités chômage, à la fois montant et, effectivement, durée d'indemnisation. Donc, on est vraiment dans la droite ligne de ces hypothèses néoclassiques de cette économie standard qui vise à dire que l'objectif des politiques de l'emploi, c'est l'incitation faite aux personnes privées d'emploi d'aller à l'emploi. Et donc l'hypothèse derrière est que la principale source de chômage serait le chômage volontaire, serait que les personnes privées d'emploi ne rechercheraient pas assez activement un emploi, seraient désincitées, voire seraient un petit peu trop difficiles dans leur choix d'accepter un emploi ou pas. Et donc, effectivement, pour répondre encore plus directement à votre question sur les conséquences qu'on peut anticiper de cette réforme violente de l'assurance chômage, qu'il faut mettre en lien avec la violence des autres réformes sur le champ socio-économique, on sait qu'effectivement, on va continuer d'aller dans le sens de la précarité, de la pauvreté laborieuse. Et à ce titre-là, je renvoie vraiment vers les rapports qui sont accessibles sur les sites internet respectifs de ces associations. Allons voir toutes et tous sur les associations Secours Populaire, Fondation Abbé Pierre, Resto du Cœur, etc. Ces associations alertent toutes, sur l'explosion de la part des personnes en emploi qui viennent dans ces associations parce qu'elles n'arrivent plus à vivre de leur salaire.
Très bien. Maintenant, on va écouter la justification du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Prenez l'assurance chômage. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur le sujet. Le Premier ministre a pris une position très claire aussi sur ce sujet. Nous avons fait une première réforme de l'assurance chômage. Nous avons réussi à faire baisser le taux de chômage dans notre pays et augmenter le taux d'emploi. Est-ce que maintenant il faut aller plus loin, considérant qu'aujourd'hui vous pouvez avoir accès à 18 mois d'indemnisation après seulement 2 ans de cotisation? Pour moi, la réponse est oui. Il ne s'agit pas de tailler. Il s'agit d'inciter au retour à l'emploi, d'inciter au retour au travail, parce que le travail est l'une des réponses les plus efficaces à la question des déficits et de la dette. Si nous avions le plein emploi aujourd'hui, 5% de taux de chômage, que le plus grand nombre de Français travaillaient, eh bien nos problèmes de finances publiques, ils seraient derrière nous. Donc faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage, inciter à reprendre plus vite un emploi, voilà une vraie réponse structurelle à la question des finances publiques. Elle est efficace, elle est nécessaire.
Alors, selon vous, Emmanuel Puissant, cette réforme est-elle nécessaire et efficace, comme l'assure le ministre de l'Économie ?
Absolument, non, je plaisante. ni nécessaire ni efficace. Juste d'abord, dans le début de l'intervention, c'est important, c'est intéressant, hein, ça illustre parfaitement ce qu'on dit depuis le début de l'émission, à savoir qu'on voit qu'il n'y a pas besoin de justifier, outre la variation des indicateurs, sur le fait que la dernière réforme de l'assurance chômage, selon le ministre, est une réussite. Baisse du taux de chômage, hausse du taux d'emploi. Vous voyez, la manière dont on utilise les indicateurs permet de ne pas avoir à faire une réelle évaluation des politiques publiques. C'est un énorme problème. J'ai expliqué pourquoi la baisse du taux de chômage pouvait ne renseigner en aucun cas sur des meilleures conditions de vie des personnes. Je le redis, hein, si tout le monde travaillait au sens d'heures d'emploi 5 heures par semaine, personne ne pourrait vivre de son salaire, le taux de chômage aurait baissé drastiquement. Le taux d'emploi, c'est pareil. Imaginons qu'on irait encore plus loin dans la précarité extrême du milieu étudiant. Si les étudiants et les étudiantes étaient toutes et tous contraintes d'avoir un emploi rémunéré à côté de leurs études, le taux d'emploi augmenterait Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour nos jeunes? Je n'en suis pas sûre. À l'inverse, si on décidait de s'orienter vers une allocation universelle pour tous les étudiants et toutes les étudiantes, le taux d'emploi chuterait, notamment de cette tranche d'âge. Est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle? Je ne suis pas sûre non plus. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de vigilance sur les justifications des politiques publiques au travers simplement les variations d'indicateurs. Ça, c'est très important. Alors, donc, la question du plein emploi et du retour à l'emploi, hein, je me répète un petit peu, mais ça me paraît fondamental. On fait comme si, dans cette citation, on était tous au clair sur ce qu'est un emploi. Voilà, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. C'est-à-dire que là, le plein emploi, une société dans laquelle on travaillerait toutes et tous 5 ou 10 heures par semaine, on rentrerait dans le critère du plein emploi. D'accord ? Le plein emploi, l'idée du plein emploi au sens fort du terme, était associée à des droits sociaux, une protection sociale importante, un salaire permettant de vivre dignement. Enfin, voilà. Donc, il y a la question de la définition sur lesquelles, effectivement, on ne se retrouve pas. En tout cas, moi, je ne me retrouve pas dans les définitions implicites de cette citation. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas être d'accord sur le constat. Alors, sur des choses peut-être qu'on n'a pas encore dites et qui sont très, très sous-entendues dans la citation, c'est sur la question d'aide publique, déficit, recettes, dépenses. Alors, on va prendre l'exemple de la protection sociale, pour rester sur la question de l'assurance chômage, de la sécurité sociale. Il y a effectivement une rhétorique, une idéologie très forte qui se développe autour du trou de la Sécu, et on a la même autour de la dette publique, avec très souvent cette image qui est très forte en termes de conviction, qui ne repose malheureusement sur, enfin qui repose assez peu sur des hypothèses fiables, qui serait que finalement les gouvernants seraient associés à, je vous laisse apprécier les inégalités de genre qui en découlent, je cite la bonne ménagère qui devrait effectivement utiliser son budget de manière correcte et donc surtout ne pas dépenser plus que ce qu'on reçoit. Donc ça effectivement, et on voit bien que c'est complètement conforme à cette vision de la société, le gouvernement est complètement associé à un ménage et que la société est une accumulation de ménages individuels et on voit que ce n'est pas ça. Historiquement, le déficit public a toujours été un outil de politique publique, d'accord ? C'est-à-dire que c'est une manière de dépenser les dépenses publiques en vue de faire en sorte que nos sociétés dites riches et favorisées vivent mieux et que nos populations vivent mieux. Sur la protection sociale et la sécurité sociale, il y a deux enjeux. Il y a la question des dépenses et la question des recettes. Il est évident que les gouvernements néolibéraux qui se sont succédés depuis maintenant de nombreuses années activent la rhétorique de la dépense publique. Voilà. Il faut déjà, avant d'aller plus loin dans la compréhension de ces discours et de la réalité socio-économique qu'il y a derrière, il faut déjà avoir conscience que c'est un biais. Insister uniquement sur les dépenses est déjà un biais de politique publique et d'hypothèse économique derrière. C'est que derrière, on est dans l'idée, il faut réduire les dépenses. On pourrait complètement, et c'est le cas notamment d'une autre association que je n'ai pas encore citée, je m'en excuse, les économistes atterrés, qui effectivement essayent de développer, pour essayer justement de contribuer à répondre à ce problème démocratique qui est qu'on a une invisibilisation de la partie de l'économie politique, l'idée est effectivement de donner à voir et de diffuser d'autres manières de considérer les choses qui reposent sur d'autres hypothèses. Sur cette question des recettes, un certain nombre de travaux d'économistes politiques montrent que l'enjeu principal, ce sont les recettes. Quel est aujourd'hui le facteur principal de la baisse des recettes, que ce soit au niveau du budget public comme du budget de la sécurité sociale? C'est la baisse ou l'exonération des cotisations sociales côté protection sociale employeur ou la baisse ou l'exonération des impôts et taxes côté financement public, déficit public. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'une des manières, effectivement, si vraiment le souci était l'équilibre budgétaire, une des manières de réduire le déficit public serait de travailler sur les recettes. On a une équipe d'économistes du Clercé à Lille qui, depuis maintenant de nombreuses années, fait des études quantitatives sur ce que représentent les exonérations côté cotisations sociales ou taxes et impôts sur les sociétés, c'est colossal. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que du coup, effectivement, on est dans un matraquage des dépenses publiques et du coup, une sorte de consensus, hein, comme il y a aujourd'hui un consensus qui n'est pas passé par la case de délibération démocratique autour que le travail coûterait trop cher, il y a un consensus sur le fait qu'on dépenserait trop, il y aurait trop de dépenses publiques. Voilà. Et donc, effectivement, ce qu'il faut aller voir, c'est où est-ce qu'on choisit de baisser les dépenses publiques.
On va en reparler dans un instant, cette question de la dette. Avant de continuer, je vous propose juste une petite interlude musicale.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'abord, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, je suis fier. Fier
entre nous,
je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai.
Pas tout à fait.
Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Sont
vraiment sont
haut placés,
très haut placés,
décorés,
très décorés,
influents,
très influents,
bedonnants,
très bedonnants,
des gens bien,
très très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de
tout près de,
j'ai toujours le regret. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Nous sommes toujours sur Radio Campus 90.8 en présence d'Emmanuel Puissant. Alors nous avons commencé à aborder la question de la dette publique et donc qui s'inscrit dans la logique du gouvernement de réduire le déficit public. Et donc nous allons maintenant questionner cette fameuse dette et son remboursement.
L'idée de réviser la croissance de 1,4 à 1% pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et j'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché, c'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur l'État.
Donc le gouvernement a annoncé ce plan d'économie de 10 milliards d'euros pour l'année 2024. Donc pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne la dette publique qui veut être remboursée et est-ce qu'on doit forcément la rembourser ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans la question et dans l'extrait. Alors, d'abord, l'idée, je reprends un petit peu ce que je disais avant l'interlude musical. La dette publique, aujourd'hui, est un outil qui est utilisé en vue de justifier la réduction des dépenses. C'est important parce que, encore une fois, on invisibilise la question des recettes et de toutes les exonérations de taxes et impôts sur les sociétés qui pourraient permettre de rééquilibrer effectivement les comptes. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question de la dette publique qui serait à rembourser est l'objet de controverses économiques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des grandes différences entre l'économie politique et l'économie standard, c'est qu'en économie politique, il y a des controverses économiques. Et les économistes ne sont pas tous et toutes d'accord entre elles et eux. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Parce que la manière dont on fait des propositions de politique publique, de priorités socio-économiques, repose encore une fois sur des représentations sociales et des hypothèses qui sont différentes selon les corpus théoriques. Et donc, il y a des controverses scientifiques et il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis, notamment labellisés économistes atterrés, de collègues spécialisés sur ces questions de la dette, qui disent que la dette n'est pas à rembourser et qu'on peut tout à fait considérer la dette comme étant un outil de financement des politiques publiques, des politiques sociales au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ça, c'est important parce que c'est un exemple de ce qu'on disait tout à l'heure sur le désencastrement, finalement, de la question de la dette publique et des possibilités de financement public. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est l'utilisation de la croissance dans l'extrait qui a été diffusé. Donc avec une confusion, hein, croissance, taux de croissance et PIB, c'est-à-dire l'indicateur. Pareil, on fait comme si, et dans cet extrait c'est très clair, on fait comme si l'augmentation du PIB était une bonne nouvelle en soi. D'accord. Et donc ça, effectivement, on sait aujourd'hui très clairement, grâce à de nombreux travaux de collègues que j'ai déjà cités tout à l'heure, hein, notamment Anne Leroy et Florence Janicatrice, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, Dominique Méda aussi, qui est que le PIB se concentre sur la partie marchande et monétaire des richesses. C'est important parce que ça fera le lien avec, du coup, le type de secteur sur lesquels va se polariser les économies, puisqu'on se rend compte, et dans l'extrait c'est très clair, la priorité doit être donnée aux secteurs qui permettent d'augmenter le PIB, à savoir les secteurs qui sont considérés dans notre imaginaire collectif comme des secteurs productifs, source de richesse. Sauf que on oublie que richesse, c'est pas uniquement richesse marchande et monétaire. Tous les services publics de l'éducation, de la santé, etc., fournissent et créent beaucoup de richesses qui sont très mal prises en compte, peu ou pas ou mal prises en compte dans l'indicateur du PIB. Voilà, donc ça, c'est important. On parle de recettes fiscales, comme s'il y avait un lien dans l'extrait, comme s'il y avait un lien automatique entre recettes fiscales et augmentation et rééquilibre du budget de l'État. Or, les recettes fiscales ne dépendent pas seulement du dynamisme du PIB et de l'activité économique. Elles dépendent directement des mesures de non-exonération et d'arrêt d'exonération sur les impôts sur les sociétés. Enfin bon, il y a beaucoup d'approximations, mais juste, je trouve qu'à chaque fois, depuis le début de l'émission, les extraits que vous utilisez sont des éclairages extrêmement forts de l'utilisation des indicateurs comme source de preuve. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème.
Pour bien comprendre les enjeux, on va rappeler deux chiffres. En 2023, les entreprises du CAC 40 ont fait un bénéfice de 140 milliards d'euros et les aides diverses aux entreprises approchent les 200 milliards d'euros. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait gratter, car en comprimant la dépense publique, le gouvernement fait entrer la France dans une spirale infernale.
Voilà, donc c'est aussi une piste que Serge Faubert nous exprime dans son émission sur le média indépendant Pure Politique. Donc le budget de l'État va fortement diminuer dans les secteurs qui en auraient le plus besoin. Alors si le gouvernement souhaite rembourser la dette, pourquoi faire subir cette restriction budgétaire au ministère, par exemple, de l'Éducation nationale, de la Justice, de la Santé, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur ou encore du Travail et de l'Emploi? Alors que la situation des entreprises est très rentable, pourquoi l'État continue d'investir massivement dans ce secteur? Pourquoi précariser davantage les secteurs qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de la société?
Oula, il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. D'abord, j'ai oublié de dire juste sur la citation précédente, quand il est dit « c'est l'État qui va se serrer la ceinture », ce n'est pas l'État, ce sont les populations, d'accord? Donc ça, c'est, voilà, c'est très important de le rappeler, puisque c'est en lien direct avec la question actuelle. Alors, sur la question actuelle, effectivement, donc, c'est effectivement ce que j'ai dit à plusieurs reprises, hein, l'utilisation de la dette publique est aujourd'hui utilisée comme un outil de justification de la baisse des dépenses publiques. Ça, c'est important. Ce n'est pas un outil de justification de rééquilibrage des comptes, puisque, comme il a été dit et comme je l'avais dit aussi, les exonérations massives sont des manques dans le budget de l'État qu'il serait très facile de récupérer en revenant sur un certain nombre de mesures d'exonération. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la baisse des dépenses... Alors, non, d'abord, peut-être sur la croyance, et j'emploie bien le terme de croyance, qu'il faut veiller, continuer à augmenter le PIB et que l'augmentation du PIB, je rappelle par exemple qu'une énorme catastrophe naturelle ou une guerre sont des éléments extrêmement efficaces pour augmenter le PIB. Voilà, juste pour se dire que je ne suis pas sûre que ce soit des éléments qui nous permettent de dire qu'on vit mieux. Voilà, donc fermons la parenthèse. L'idée de se concentrer sur les secteurs dits productifs, source de croissance du PIB, source de croissance de richesses marchandes et monétaires repose sur des hypothèses néoclassiques, sur des hypothèses néolibérales qui consistent à dire qu'il faut libérer les entreprises, libérer les marchés, faisons confiance à l'accumulation du capital. On est au cœur vraiment du système capitaliste, c'est-à-dire faisons confiance à celles et ceux qui entreprennent, allégeons-les de ces cotisations trop lourdes, faisons confiance à l'accumulation du capital, on finira bien par voir des éléments du fameux ruissellement dont on attend toujours les effets avec impatience. Et donc, cette idée-là, effectivement, qu'on continue de veiller à l'accumulation du capital et on fait confiance dans les répercussions de cette accumulation du capital. Donc ça, c'était pour répondre à la partie de la question « Pourquoi est-ce qu'on continue de mettre autant de financement dans ces secteurs-là productifs ?» Et deuxième partie de la question, « Pourquoi est-ce que finalement ce sont toujours un petit peu les mêmes secteurs qui pâtissent de la baisse des dépenses publiques ?» Les dépenses publiques se concentrent sur les secteurs dans lesquels il y a le plus de dépenses publiques. D'accord ? Quels sont les secteurs dans lesquels il y a le plus de dépenses publiques? Les secteurs dans lesquels il y a beaucoup de financement de la masse salariale, dans lesquels il y a beaucoup de salariés ou de fonctionnaires. Il y a malheureusement de moins en moins de fonctionnaires dans les fonctions publiques, mais on a des secteurs d'activité dans lesquels les dépenses sont importantes puisque les formes de richesses qui sont créées ne sont pas valorisables sur les marchés, ne sont pas marchandisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accumuler du capital financier sur la base de la création de richesses d'un service public de l'enseignement, d'un service public de la santé, d'un service d'action sociale, d'un service d'action médico-sociale auprès des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, on a, et c'est pour moi un effet direct de ces pilotage des politiques publiques et des priorités publiques par les indicateurs, on a une confiance très forte dans les secteurs qui créent des points de PIB, je vais le dire comme ça, et une tendance à considérer comme étant improductifs les secteurs qui créent moins de points de PIB, voire qui n'en créent pas. Et donc, et c'est vraiment un gros problème de société selon moi, on a une décorrélation entre l'utilité à la société d'un certain nombre d'activités. On n'a pas du tout parlé d'écologie, on aurait pu avoir exactement la même analyse sur les enjeux écologiques. On a une décorrélation totale entre les activités utiles à la société dont on a absolument besoin et les activités qui permettent d'augmenter le PIB qui est devenu la boussole des politiques publiques. Ce qui, à mon avis, contribue à expliquer cet apparent paradoxe sur lequel vous m'interrogez, sur pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes secteurs dont on peut quand même se dire qu'ils sont absolument nécessaires, qui pâtissent des dépenses publiques. C'est qu'une fois qu'on a bien rodé l'idéologie selon laquelle il fallait diminuer les dépenses publiques, là où c'est le plus efficace, c'est là où il y a le plus de dépenses publiques, c'est là où il y a le plus de frais de personnel, et là où il y a le plus de frais de personnel, ce sont sur les secteurs d'activité relationnels, des métiers du lien, pour reprendre la terminologie d'un récent rapport parlementaire sur ces métiers-là, sur lesquels, effectivement, on est sur de l'humain, et donc on a effectivement des dépenses importantes. De là à en déduire qu'on a des charges importantes, évidemment, je ne partage pas ce point de vue.
Très bien, merci beaucoup. Vous êtes venu avec un livre, est-ce que vous voulez nous en parler ?
Oui, alors j'en ai un tout petit peu parlé effectivement. Donc dans le cadre de l'Association française d'économie politique, donc on partage ces constats-là dont j'ai un petit peu fait état dans l'émission, à savoir qu'il y a une baisse du pluralisme en économie dans les formations, que ce soit au lycée ou dans les universités, ce qui nous semble, ça je l'ai dit, être un énorme problème pédagogique, mais aussi démocratique. Et donc, on a réussi à réunir 60 auteurs et autrices économistes politiques de toute la France autour du grand manuel d'économie politique qui est paru effectivement chez Dunod l'année dernière, et donc qui essaye, sans viser l'exhaustivité, puisqu'évidemment il y a des manques, mais il est déjà assez gros, qui essaye d'aborder des énormes sujets de société et d'essayer justement de donner à voir ce que l'économie standard se refuse à faire, c'est-à-dire les controverses économiques qu'il y a sur différents sujets. Intervention de l'État, les marchés, les inégalités, l'écologie, voilà. Et donc, essayer de donner à voir ce que les économistes ont à dire sur ces questions-là. L'idée étant d'essayer de fournir aux étudiants et aux étudiantes, ce manuel s'adresse vraiment aux étudiants et étudiantes de licence. Évidemment, ceux de master peuvent le regarder, mais la cible était vraiment la licence. L'idée étant d'essayer de fournir les clés d'analyse et les clés de lecture disponibles en économie politique sur ces grands sujets de société, sans du tout essayer de convaincre qu'il faut aller dans cette voie ou dans cette voie, mais vraiment d'exposer l'état des controverses scientifiques pour essayer de nourrir effectivement une partie de notre jeunesse pour continuer à essayer d'être au clair sur ses positions et ses positionnements sur ces grands choix de société dont on nous prive de plus en plus en vue de du fait notamment de ce désencastrement de nos experts économiques.
Très bien, merci beaucoup pour toutes vos explications. J'espère que cela aura permis d'éclaircir et d'expliquer au plus grand nombre des décisions économiques qui sont donc forcément politiques pour sortir de l'illusion d'une vérité économique et laisser place au dialogue et à la controverse. J'espère aussi que nous avons pu lever certaines idées reçues sur la matière et également sur le chômage et la dette publique. Il est maintenant nécessaire de sortir de la vision normée par un pouvoir savoir de l'économie et afin de laisser place à une forme d'économie plus inclusive des sciences sociales dans sa logique, laissons place au pluralisme dans l'intérêt de notre démocratie. Merci beaucoup Emmanuel Puissant d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à Rémi pour la technique. Souhaitez-vous ajouter le mot de la fin ?
Non, merci à vous pour ces émissions importantes.
Merci beaucoup.
Personne ne peut comprendre, ma vie n'est pas à vendre. Et je le clame haut et fort, il ne faut pas se méprendre. Asphyxiant les sentiments, l'argent pourrit les gens. Précisément en ce moment, tout s'achète, tout se vend. même les gouvernements prêts à baisser leur froc pour une question d'argent, avec une veste réversible suivant le temps. Apparemment l'armement passe largement avant la condition de vie de chacun. Le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant tu sais à quoi sert le fric qui à lui seul pourrait stopper la famine en Afrique.
L'argent pourrit les gens.
J'en ai le sentiment.
J'en ai le sentiment.
Faire avancer les choses, défendre notre cause pour une métamorphose, voilà ce qui s'impose loin de tous ces requins. Je poursuis mon chemin, loin de là tu m'en possible, évolue, voilà ma vraie fortune.
Sans grand moyen, oui je suis né, pourtant prêt à affronter cette injuste réalité, pré-réglée par le pognon, car sur ma face il est écrit que je suis à l'écart de la grande répartition monétaire, réservée depuis plus d'un millénaire, riche et pauvre,
oui depuis trop longtemps.
Les valeurs n'ont pas changé, quel que soit le siècle, quelle que soit leur maison, on pleure car la monnaie a une clarté qui aveugle mes frères. Dînant la mort au coin des rues, se charcutant pour un blouson. Et mec, de cette façon le pognon ne fera pas l'ampleur de ta condition.
L'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. Je ne me prétends pas du tout différent. J'aime l'argent, l'adopter, le maîtriser, le contrôler avec doigté. Il doit apporter une jouissance interne et intense. Quel qu'en ait été l'origine de la semence. Oui, j'ai ce défaut aussi, mais jamais je n'ai trahi la confiance de mes pères pour une sale affaire de fric. Situation courante et dramatique. La corruption est une arme à ne pas négliger. Si tu veux réussir en politique, sache que l'arnaque est une technique, une tactique illicite qui profite toujours au même, au pilier du système. Mais que fait la justice?
L'argent les rend complices.
Tout en l'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment,
j'en ai le sentiment.
L'argent pourrit les gens.
Tout le temps.
J'en ai le sentiment,
j'en ai le sentiment.
La convoitise perpétuelle des biens de mon prochain ne fait qu'enflammer constamment mon amour pour l'argent. Et pourtant, étant conscient que cette valeur est matérielle, rien ne m'arrête pour l'acquérir. Donc je me fais prédateur pour une poignée de papier qui pour un jour ou plus me fera croire que l'argent fait le bonheur. Oui, je me l'ai déréglé par le système qui me pousse à l'extrême. Je suis en bas mais bien plus loin comparable par leur niveau. Des gens tournent le dos à la famine de leurs égaux, dédaignant leur père, car plus ils coulent sous l'argent, moins le monde devient réel. Laisse le bonheur. Non, je ne crois pas que le pognon soit une rançon du bonheur.
L'argent pourrit les gens.
J'en ai le sentiment.
J'en ai le sentiment.
Tout le temps, 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 tout le temps.
L'argent pourrit les gens.
Mais c'était quoi?
L'apérophonie.
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.